Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 17 décembre 2024. Aujourd'hui, plutôt des infos courtes, pas mal de brèves. Donc, je vous épargne le sommaire parce que ça serait trop long. Et on commence directement avec un communiqué que nous avons reçu sur la boîte mail sur info@radioescapade.org qui nous vient de Saint-Jean-du-Gard. Un communiqué de la part de parents d'élèves impliqués dans une mobilisation pour tenter de sauver la fermeture de deux classes qui sont menacées pour l'école de Saint-Jean-du-Gard, donc pour la rentrée 2025. Une classe de maternelle et une classe de l'école élémentaire dont on parle, voilà. Les parents d'élèves refusent ainsi que l'éducation et l'avenir de leurs enfants soient sacrifiés sur l'autel des seuls critères comptables qui justifient donc ces fermetures de classe. C'est ce qu'ils écrivent en tout cas dans ce communiqué. Dès l'annonce de ces projections pour l'année prochaine par l'inspecteur académique, et alors que l'ensemble des instituteurs et institutrices de l'école étaient en grève, un premier rassemblement de ces parents et de leurs enfants a eu lieu devant l'école, c'était jeudi dernier, le 4 décembre, pour manifester donc leur opposition à cette nouvelle. Ça s'est fait d'ailleurs en présence de plusieurs membres du conseil municipal, de l'équipe enseignante et du périscolaire. Une pétition a déjà commencé à circuler d'ailleurs, et on en est à plus de 700 signatures à ce jour. Si on fermait ne serait-ce qu'une seule de ces classes, ça ferait grimper le nombre d'élèves à minimum 27 pour les classes de maternelle. C'est déjà en soi une aberration en termes d'efficacité pédagogique et de vie de groupe, hein, et puis de conditions d'apprentissage et de travail pour les professeurs. Et en plus, tout cela est contraire aux annonces gouvernementales récentes qui prenaient justement des classes de moyenne de 24 élèves. Cela est d'autant plus un non-sens dans un territoire rural précaire, dans des écoles notamment où il n'y a pas de RASED ou de classe ULIS, avec notamment aussi des enfants qui ont peut-être des difficultés ou des particularités. Tout cela sans oublier le contexte très spécifique de Saint-Jean-du-Gard, où par ailleurs ces deux écoles, donc la maternelle et le primaire, sont actuellement hébergées dans des locaux provisoires, et ce depuis 4 ans, dont un en préfabriqué, qui se détériore considérablement, ce qui ne permet pas l'accueil de classes avec des effectifs surchargés, comme est donc prévu la prochaine rentrée. Ces parents d'élèves mobilisés souhaitent que la direction académique des services de l'éducation nationale, donc le DAZEN, prenne bien la mesure justement du contexte de ce groupe scolaire en particulier, prenne des décisions ainsi qui ne reposeraient pas simplement sur des critères comptables et budgétaires, mais bien sur des critères qualitatifs, tant pour les conditions de travail des enseignants et ATSEM que pour le bien-être et l'apprentissage donc des enfants au quotidien. Et enfin, ils souhaiteraient surtout déjà être reçus rapidement pour être entendu et donc que ces arguments puissent trouver un écho en faveur du maintien de toutes les classes. Ils ont pour cela décidé d'occuper l'école justement toute cette dernière semaine avant les vacances pour rendre la situation visible, informer les parents et se rassembler. S'ils n'ont pas de réponse du DAZN pendant les vacances, eh bien ils se sont déjà organisés pour bloquer l'école à la rentrée scolaire. Mobilisation toujours, c'est à Alès aujourd'hui qu'une manifestation d'agriculteurs de la Confédération paysanne a lieu donc ce matin sur un rond-point de l'entrée d'Alès. Plusieurs colères sont à l'origine de ce rassemblement, notamment la signature du traité du Mercosur et la très probable fermeture de l'abattoir de la ville d'Alès. C'est une nouvelle mobilisation donc pour tenter encore une fois de mobiliser les pouvoirs publics. Le syndicat, donc la Confédération paysanne, donnait rendez-vous ce matin à 9h30 pour un briefing au rond-point situé à l'entrée d'Alès, on est au bout de la N106, pour une mobilisation qui a donc eu lieu entre 10h et 12h. Des banderoles installées, des tracts distribués aux automobilistes et un encas paysan. Ces organisateurs affichent par ailleurs leur opposition à la FNSEA, premier syndicat agricole national, qu'ils accusent de mener un double discours, notamment vis-à-vis de la situation en France et dans l'Union européenne, sur justement le dossier du Mercosur, ce traité de libre-échange avec des pays d'Amérique du Sud. L'autre feuilleton à l'origine de cette mobilisation est bien plus proche, c'est celui de la fermeture annoncée de l'abattoir d'Alès. Des éleveurs avaient déjà tenté une première mobilisation citoyenne en début d'année, en récoltant notamment via une cagnotte litchi 25 000 euros. L'objectif était annoncé de sauver cet établissement de proximité pour éviter une fermeture qui serait un désastre pour les éleveurs locaux, mais également ainsi pour les paysages et les circuits courts. Et bien depuis, la situation ne s'est pas améliorée, puisqu'après un premier placement en redressement judiciaire de l'abattoir en mars dernier, la juridiction commerciale a renouvelé la période d'observation du redressement judiciaire de la société qui est donc gestionnaire de cet abattoir, et cette période va s'étendre jusqu'au 23 mars 2025. Finalement, l'entreprise a été liquidée ce jeudi 12 décembre, justement, par le tribunal de commerce du Gard. L'avenir du site est donc toujours en suspens, puisqu'il reste quand même malgré tout une option qui serait la privatisation. Mais les observateurs sont très peu optimistes sur ce dossier, et ainsi dans l'appel à manifester, donc pour aujourd'hui, la Confédération paysanne du Gard estimait de son côté que l'abattoir d'Alès avait tout simplement fermé. Et la semaine dernière, on reste avec la Confédération paysanne, c'était dans l'Aveyron qu'une centaine de ses militants justement envahissaient le conseil départemental de l'Aveyron. C'était le vendredi 13 décembre. La Confédération paysanne a appelé les agriculteurs et agricultrices à se rassembler donc devant le conseil départemental de l'Aveyron avec pour objectif de protester, cette fois-ci contre le conditionnement du RSA à 15 heures de travaux. Et vous allez voir qu'en effet, ils sont directement impactés par cette situation. Vous le savez sûrement, je vous en avais parlé, le département de l'Aveyron s'est porté volontaire, parmi d'autres, pour l'expérimentation donc, de cette nouvelle mesure, donc le conditionnement du RSA à 15 heures hebdomadaires de travaux. Cette nouvelle mesure devrait se généraliser en 2025, normalement. Et donc le syndicat, donc la Confédération paysanne, expliquait justement que plus de 500 paysans de l'Aveyron sont installés sur des structures qui, pour des raisons diverses et variées, et souvent externes, ne leur permettent pas de tirer un revenu décent. Par exemple, quand ils sont en train d'être en phase d'installation, qu'il leur arrive des accidents de la vie, des aléas climatiques, une absence d'encadrement des prix, l'inflation, etc. Ils en arrivent donc à solliciter le RSA, le revenu de solidarité active, et c'est pour eux un palliatif nécessaire, ça permet donc de boucler les fins de mois. Et bien depuis ce printemps, nombreux et nombreuses sont justement celles et ceux qui ont reçu des pressions de la part notamment de France Travail ou du département, par rapport à le fait de percevoir cette allocation. Ils sont ainsi convoqués devant des assistants sociaux et on leur demande de trouver un emploi en plus de leur travail à la ferme. Il a été également dénoncé au cours de cette mobilisation l'inégale répartition des aides de la PAC, puisque ces aides sont proportionnées au nombre d'hectares exploités, ce qui favorise donc les grandes exploitations, tout en rappelant que même des fermes qui sont largement aidées par la PAC peuvent elles aussi se retrouver avec des revenus dérisoires. Cette situation, eh bien, le syndicat pense qu'elle va encore s'aggraver donc avec ce fameux accord de libre-échange du Mercosur conclu entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Donc c'était le 6 décembre qu'a été ratifié ce traité. Les manifestants donc, réunis ont dans un premier temps transmis de vive voix leurs revendications à Arnaud Viala, qui est le président Horizon du conseil départemental, et ils lui ont demandé eh bien justement un engagement à pérenniser et à sécuriser le dispositif du RSA pour les actifs agricoles sans application donc de ces fameux 15 heures de travail hebdomadaires exigées. Ils ont également souhaité pouvoir redonner à la MSA, donc ce qu'est la sécurité sociale pour les exploitants agricoles, son rôle d'assistance sociale des agriculteurs, justement à rebours de la dérive actuelle qui s'oriente vers l'organisme de contrôle. Et enfin, ils ont souhaité pouvoir utiliser le RSA comme un outil au service du développement du territoire, plutôt que celui d'un revenu un petit peu rebut et surtout soumis à d'énormes pressions. Face à une discussion difficile, donc, la Confédération paysanne a ensuite envahi le conseil départemental en contournant un léger dispositif policier, ce qui a retardé justement la session prévue d'une heure environ. On va parler de la vie et de la mort, surtout de faucons, puisque France Nature Environnement, FNE, traîne en ce moment EDF en justice pour en l'accusant justement de la mort de centaines de faucons au pied de ses éoliennes, notamment dans le parc d'Aumelas. En cause, donc, 7 parcs éoliens qui sont exploités par EDF dans l'arrière-pays Hérolté. C'est une première en France, ce type de procès. Donc, l'association France Nature Environnement a amené EDF devant un tribunal pénal pour destruction d'une espèce animale protégée. Ça a été jugé hier devant le tribunal correctionnel à Montpellier. Et EDF risque gros dans cette affaire. Pour les chiffres, entre 2017 et 2021, ce sont en effet plus de 300 oiseaux, donc de ces faucons, qui ont été retrouvés morts au pied des éoliennes, car EDF n'aurait pas pris donc toutes les précautions nécessaires pour éviter ce véritable massacre. Dans les réquisitions du parquet, eh bien, on a frappé plutôt fort hein, en réclamant 750 000 euros d'amende, dont 500 000 avec sursis, et également un arrêt de l'activité pour chacune des sociétés exploitantes qui travaillent pour EDF. Le procureur a également requis 6 mois de prison avec sursis et 150 000 euros d'amende, dont 100 000 avec sursis, pour le PDG d'EDF Renouvelable, à savoir Bruno Bensasson, qui n'était pas à l'audience, mais représenté par son avocat. Du côté de France Nature Environnement, Aurélien Besnard, qui est biostatisticien au CNRS, et également spécialiste de l'impact des activités humaines sur le monde animal, il était témoin à la barre pour l'association donc France Nature Environnement. Il est venu témoigner justement des dégâts faits par les éoliennes sur les faucons cresserellettes. Pour le parc d'Aumelas, dit-il, on a des chiffres assez précis sur la mortalité. Les calculs faits montrent que la population des faucons cresserellettes serait 2 fois plus importante aujourd'hui s'il n'y avait pas les éoliennes, avec seulement 700 individus vivants, cette espèce présente aujourd'hui des risques d'extinction. Simon Popy, qui est le président de France Nature Environnement pour la région Occitanie-Méditerranée, lui a suivi les débats sans intervenir, mais avec beaucoup d'attention. Ce procès est une grande première en France et, selon lui, il devra désormais servir d'avertissement. Il s'exprimait dans les colonnes de France 3 Régions. Ça fait plus de 10 ans qu'on se bat pour faire respecter le code de l'environnement sur ce cos d'Aumelas. On attend que EDF comprenne qu'à partir de maintenant, il doit le respecter. Pour ce jugement, le rendu sera attendu pour le 17 mars.
Ah oui, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Eh bien tiens, je vous emmène à la capitale, à Paris, où pour le droit au logement, le théâtre de la Gaîté Lyrique, enfin la salle de spectacle de la Gaîté Lyrique, a été occupée depuis une semaine par 200 mineurs isolés. On est dans le 3e arrondissement, donc à Paris. Et cette célèbre salle de spectacle, la Gaîté Lyrique, est en ce moment occupée depuis le mardi 10 décembre. C'est le collectif des jeunes du parc de Belleville qui occupe donc la Gaîté Lyrique. Ils étaient 215 au démarrage de l'action, dont 2 femmes enceintes et un bébé de 18 mois. Ils sont aujourd'hui près de 300. Ces jeunes expliquent être en situation de précarité. Nous avons besoin, disent-ils, qu'il y ait des réquisitions de logements et que la mairie réagisse. Précédemment, ils nous ont montré qu'il y avait des moyens pour héberger les jeunes. Il y a déjà eu des hébergements suite à des occupations. Des places, il y en a pour tous. Ce qu'il manque juste, c'est la volonté politique. Enfin, un autre témoignage. Nous sommes là ce soir pour défendre les droits de tout un chacun. Il y a beaucoup de jeunes qui dorment dehors, au bord de la Seine, et ça, ce n'est pas normal. En avril dernier, en effet, grâce à des actions d'occupation similaires, 800 jeunes avaient été pris en charge. Et en effet, comme il le souligne, il n'y a aucune excuse à laisser des enfants dormir dehors lorsqu'on sait que 300 000 logements sont libres à Paris ou bien en résidence secondaire. Ça, c'est une enquête de la mairie de Paris qui donne ces chiffres. 58% des locations parisiennes, d'ailleurs, si on regarde de plus près cette enquête, 58% de ces locations appartiennent à des multipropriétaires d'au moins 5 appartements. Cet appel à l'aide, en tout cas, qui a été envoyé par le collectif des jeunes du parc de Belleville à l'État et à la ville de Paris, qui ne cesse de se renvoyer la balle, reste pour l'instant sans réponse. Ces jeunes vivent donc pour l'instant dans le lieu, donc la Gaîté Lyrique, depuis près d'une semaine, sans aucune autre perspective, et sous la menace d'une répression policière qui s'est d'ailleurs déjà manifestée ce samedi. Et en plus de tout cela, le 12 décembre dernier, c'est l'extrême droite qui a tenté d'entrer dans le bâtiment avant d'être repoussée. Pour rappel, un mineur non accompagné, MNA, c'est une qualification administrative pour désigner un enfant étranger qui vit en France, sans parents ou sans représentant légal. Ces jeunes font l'objet de mesures de protection, notamment via la Convention internationale des droits de l'enfant, et donc en principe l'État a le devoir de les protéger. Le média Street Press publiait il y a quelques jours des chiffres qui font plutôt honte sur l'action de l'État, puisque ces MNA sont placés dans des structures d'accueil différentes de celles des enfants français et bénéficient d'un budget d'au moins 35% inférieur. En effet, ce sont les départements et les conseils départementaux qui ont la gestion, notamment de la protection de l'enfance, mais ils sous-traitent en lançant des appels à projets, notamment pour la création de foyers d'accueil dédiés auprès donc, d'autres organismes. Il y a une belle manne financière là-dedans. La plupart des départements allouent ainsi des sommes bien plus faibles aux enfants étrangers qu'aux enfants français. Donc c'est une discrimination avérée. On peut lire par exemple qu'une journée en internat collectif, normalement le prix s'établit entre 180 et 240 euros. Et bien quand il s'agit de ces mineurs non accompagnés, on est par exemple à 130 euros dans les Côtes d'Armor, donc presque la moitié, 110 en Vendée, 145 euros à Paris, 120 dans les Bouches-du-Rhône, 75 pour les Pyrénées-Orientales ou encore 85 euros dans la Nièvre. L'excuse de ces départements, eh bien, c'est que ces enfants justement sont plus autonomes du fait de leur parcours de migration difficile, donc ils ont besoin de moins d'aide que ceux qui sont nés sur le sol français. En attendant, à la Gaîté Lyrique, des assemblées générales ont lieu tous les jours à 18h. Une soirée de soutien au collectif des jeunes du Parc de Belleville est organisée ce 21 décembre à Montreuil. Et si vous n'êtes pas à Paris, une cagnotte disponible en ligne pour les soutenir sur le site Hello Asso. Liberté, et dans formulaire, vous mettez collectif des jeunes de Belleville. On part en mer maintenant avec plusieurs brèves. Tout d'abord, un risque de marée noire qui s'annonce après le naufrage de deux pétroliers russes en mer Noire, justement. Elle risque malheureusement de vraiment porter ce nom pour de mauvaises raisons, la mer Noire, puisque deux pétroliers russes se sont échoués donc ce dimanche en pleine tempête dans le détroit de Kertch. On est entre la Russie continentale et la Crimée, qui a été annexée depuis 2014 à la Russie. Ces supertankers transportaient chacun 9000 tonnes de mazout, dont une grande partie s'est ainsi déversée dans la mer, ce qui laisse redouter une importante marée noire. Plusieurs vidéos sont disponibles sur les sites des médias russes, et on voit la poupe d'un de ces navires qui flotte à la verticale, tandis que les litres de ce dérivé du pétrole se répandent dans une mer agitée. Un marin d'ailleurs mort dans ce grave accident, 11 autres ont été évacués, selon les informations des services de secours qui sont relayés par l'AFP. Ce double échouement pourrait être lié à une erreur humaine ou à une surcharge de ces navires qui sont souvent très antiques, hein, puisqu'ils dataient celui-là de 1980, et qui sont plutôt conçus pour naviguer par temps calme et pas affronter des vagues de tempête. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné la création d'un groupe de travail pour éliminer cette pollution en mer, annonce le Kremlin, une potentielle catastrophe environnementale dans une région qui est déjà meurtrie par la guerre. Et plus près de chez nous, c'est un massacre industriel, en tout cas ce sont les mots utilisés par l'ONG Bloom, sur ce qui se passe au large de Douvres et de Dunkerque, donc on est dans la Manche. Bloom, donc c'est une association de défense des océans, et elle a pris en flagrant délit des navires de pêche industriels en train d'opérer dans une mer marine protégée. C'est la zone Natura 2000, des bancs des Flandres, ouais, rien que ça. L'association a dénombré 9 bateaux, majoritairement sous pavillon néerlandais, des bateaux allant de 81 à 142 mètres de long, et chacun de ces monstres des mers capture chaque jour l'équivalent de ce que peuvent pêcher 1000 petits navires. C'est un véritable pillage, explique donc Laetitia Bisio, qui est chargée de campagne chez Bloom. Des images ont été filmées, tournées par l'association, et elles sont disponibles en ligne. Elles montrent l'utilisation d'un aspirateur à poissons, qui aspire donc les animaux vivants dans ce navire-usine, directement depuis le filet tracté sous l'eau. Chaque hiver, l'arrivée dans la Manche des plus gros navires de pêche au monde crée la colère et la sidération des pêcheurs locaux en raison de leur efficacité redoutable, soutenue par les pouvoirs publics au détriment du milieu marin et des pêcheurs côtiers. L'association Bloom s'indigne que la présence de tels bateaux dans une aire marine protégée soit légale en France. Elle rappelle les recommandations de l'Union internationale pour la protection de la nature qui préconise justement dans ces zones protégées l'interdiction de tout navire de pêche de plus de 12 mètres de long ou qui pratique le chalutage. Cela, je vous le disais, il faut plutôt une centaine de mètres de long et il pratique le chalutage. Bloom dénonce également une gestion des quotas de pêche français qui favorise ces navires usines. Les tonnages gigantesques pêchés par ces navires ne profitent pas à nos criers et à l'économie locale, rappelle l'ONG. Les deux brèves là que je vous ai lues sont disponibles sur le site Reporter et il y a des liens justement vers les images, les vidéos dont je vous ai parlé. Puis l'occasion de se dire que avec les fêtes qui arrivent, si vous mangez des poissons notamment, bah, n'hésitez pas à regarder un petit peu la provenance et le type de pêche dont ils sont issus.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, on va boucler avec peut-être une bonne nouvelle. Dans l'affaire Paul Watson, en tout cas une bonne nouvelle pour lui, hein, puisque le défenseur des baleines a été blanchi par le Danemark et il va donc pouvoir quitter sa prison. Le gouvernement danois refuse donc d'extrader vers le Japon ce militant écologiste qui est incarcéré depuis cet été au Groenland. C'est le journal Libération notamment qui a imprimé cet article il y a environ une heure. Le fondation de l'ONG Sea Shepherd va pouvoir rentrer en France où il habite avec sa femme et ses deux jeunes enfants depuis peu. Celui qu'on surnomme le gardien des océans va donc quitter le Groenland après 149 jours de prison. Il en aura passé du temps à contempler le fjord Nuuk-Kangerlua depuis sa cellule de l'établissement pénitentiaire de Nuuk. C'est la capitale du territoire autonome danois. D'ailleurs, il raconte avoir vu depuis sa fenêtre passer des baleines. Son animal totem hein, est le plus grand combat de sa vie. J'imagine que ça doit un petit peu aider à passer le temps en détention d'avoir des baleines sous sa fenêtre. En tout cas, il a été arrêté le 21 juillet et c'est donc le fondateur de Sea Shepherd, ça veut dire gardien des mers. Il s'apprêtait à quitter le port groenlandais à bord de son bateau, qui s'appelle John Paul DeJoria, pour empêcher un nouveau navire harpon japonais de chasser les baleines et les cétacés dans le Pacifique Nord. Eh bien, la police danoise lui a mis les menottes au moment où il se ravitaillait en carburant. La raison, eh bien, c'est que ce militant écologiste de 74 ans est sous le coup d'un mandat d'arrêt international qui a été émis par le Japon, justement pour des faits relatifs à une campagne de 2010. Une campagne menée sous le pavillon de son organisation Sea Shepherd, qui s'était attaquée à la flotte de pêche nippone dans l'océan Austral. Et depuis son interpellation, tout l'enjeu était de savoir si le gouvernement du Danemark allait le livrer au Japon. Et bien ce matin, ils ont donc pris leur décision, une décision formelle de refuser cette extradition. En tout et pour tout, le temps de ces 5 mois d'instruction qui a été mené par le gouvernement du Danemark, ce défenseur de l'environnement, donc Paul Watson, a vu 6 fois une prolongation de sa détention et 4 recours rejetés. Donc ça a pris du temps avant que le ministre de la Justice, qui s'appelle Peter Umelgard, rende sa décision, une décision éminemment politique. Et c'est ce qui explique, notamment de la part du cabinet du ministre, que la procédure a pris plus de temps que prévu et espéré, compte tenu de l'intérêt du public pour cette affaire. Du côté du clan Watson, c'est évidemment la joie et la délivrance. Mais en choisissant de ne pas extrader l'éco-guerrier, donc le Danemark prend le risque, lui, de s'attirer les foudres du Japon, puisque ça fait plus de 10 ans que le Japon cherche à mettre la main sur le militant écologiste pour lui intenter ce procès. Le protecteur des baleines était là accusé par les autorités japonaises donc d'obstruction forcée au commerce, d'atteinte à l'intégrité physique et d'intrusion dans un navire et de vandalisme. Pour donc des événements qui ont eu lieu en 2010, entre le 11 et le 15 février, Sea Shepherd harcelait les bateaux japonais pour faire obstacle à leur chasse à la baleine. Et à l'époque, le Japon affirmait chasser dans un but scientifique et non à des fins commerciales. Alors que vous l'aurez compris, dans les accusations dont je viens de vous parler, c'est justement obstruction forcée au commerce. Donc des petites incohérences qui ont peut-être expliqué la décision du Danemark. Et d'ailleurs, eh bien, c'était perçu comme un subterfuge par Sea Shepherd, le fait d'utiliser un but scientifique pour justifier ses chasses, car une partie de la viande finissait bien sur les étals commerciaux du Japon. Il était capitaine des opérations il y a 15 ans, Paul Watson, et donc jugé responsable par le Japon d'avoir planifié et conspiré le sabotage qui avait conduit notamment au lancer de bombes d'acide butyrique en direction des bateaux japonais. L'acide butyrique, on en retrouve par exemple dans le beurre rancin. Eh bien, selon les autorités japonaises, un matelot aurait eu des brûlures chimiques au visage. Et il aurait été accusé d'avoir dégradé un grand filet de pêche, puisqu'un des matelots de Sea Shepherd avait été monté sur les bateaux et avait coupé justement la fameuse nasse. Paul Watson, lui, en tout cas, va pouvoir rentrer en France, où il vit depuis maintenant 1 an, et où il attend sa femme et deux de ses enfants. En effet, il y a 10 ans, c'était des proches du militant, dont Nicolas Hulot, qui l'avait poussé demander l'accueil en France, alors qu'il était déjà recherché par le Japon et Interpol. Quelques chants de baleines qui ont été enregistrés du côté de l'île de la Réunion. Voilà, pour terminer cette information. On est parti pas mal sous les océans et on va se quitter en musique puisqu'il nous reste quelques minutes. Je vous propose d'écouter un morceau du groupe qui s'appelle The Coop et ça s'appelle 5 Million Ways to Kill a CEO. Allez, à jeudi pour d'autres nouvelles du monde et attention au froid.
Come up and then you know, let him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or yeah, do it disco. Yeah, disco. Yeah. 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know, let him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or yeah, do it disco. Yeah. Justified it, it was worth you waiting. On the turf debating how to get it percolating. He working you while we happy just to work a day. But I'ma slap him till my blood starts circulating. Do your checks have elasticity? Did they cut off your electricity? Did you scream and yell explicitly? Force the boss into complicity. I'm a white chalk stencil, but I push a pencil. Rolling dope fiend rentals to your residential. Broke as fuck eating lentils with no utensils. Finna teach pimp class with a hoe credential. Sweatshop, pet cops and fields of cola. Murder babies with their molars on the areola. Control the Pope, Dalai Lama, holy rollers and the Ayatollah. Bump this rolling in your bucket or your new Corolla. You might catch me on the scenic route with my penis out. Yelling twice for the executives with the meanest mouth. Wanna know what this demeanor's about? City try to clean us out. Greenish cloud, shut them down. I ain't never seen a drought. In the music, they ain't calling you back. For the record, I ain't called it a gag. But tuck this in the small of your back. Wait in the bathroom stall till I tap. Kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Let him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or do it disco. Yeah, disco. 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Let him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or do it disco. This game ain't slow, it's the creeper. If you a janitor, get a street sweeper. Ugly is even skin deeper. If you can't get the prayers, get the beeper. They made the murder scene before there was a coroner. I might have been born here, but I'm a foreigner. Spilling swigs for victims of pigs and not Feeny's kid. Flip off the lid, who you pull for? You too could be a corporate green killer. Bean spiller, gangster love just like Steve Miller. They wear skivvies, that's made a chinchilla. Factory in Mexico, bought a spring killer. I'm from the land where the Panthers grew. You know the city and the avenue. If you the boss, we'll be smabbing through. And we'll be grabbing you to say what's up with the revenue. And if you feel it, we can even try to sell it with the 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Let him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or do it disco. Yeah, disco. 5 million ways to kill a CEO.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.